Donc Bernard, Bernard et Bernard, je vous laisse peut-être vous présenter.
Bonjour Bernard. Voilà, on est trois représentants ici du Numis Group. On est un groupe d'acteurs. Il y a ici Anne-Sophie, moi. Bon, je dis les noms quand même, hein, on ne se camoufle pas. Si, je peux. Et Tigui. On fait du théâtre entre citoyens et non-citoyens européens. Et on s'est rencontrés autour de ce projet de théâtre. Et ça fait quoi, 5 ans qu'on travaille maintenant? Et le projet en tant que tel aujourd'hui, ça fait 2 ans et demi, 3 ans qu'on y travaille, après avoir rencontré dans un centre ouvert pour demandeurs d'asile à Bierzet, près de Liège, un groupe de demandeurs d'asile dont Tigui est ici une représentante. Voilà.
Bonjour, alors j'ai rencontré le groupe Nimis, comme vient de le dire Jérôme, dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile où je vivais à l'époque. J'ai fait 2 ans dans ce centre. Alors ils sont venus avec un projet de théâtre. Tout de suite, on n'a pas eu confiance parce que dans des centres d'accueil, les citoyens européens ne viennent pas souvent, ils viennent jamais d'ailleurs. Donc c'était un peu bizarre pour nous que cet Européen se présente un beau jour comme ça pour nous dire qu'ils ont un projet pour nous. Alors on se disait que c'était des espions quoi de l'office qui sont venus nous soutirer des informations sur le comment on vit ici et tout ça. Ils ont été insistants, ils sont venus. On a commencé par des étapes de travail, des ateliers et tout. La confiance s'est établie petit à petit et jusqu'à la réalisation de ce projet.
Donc au départ des ateliers de théâtre et puis maintenant un spectacle.
Oui, en fait, c'est une démarche à long terme avec une enquête qui, au départ, se tourne vers les politiques migratoires, donc la lecture d'annales parlementaires, discussion avec des juristes, des militants, et puis d'aller voir les gens qui vivent ça à côté de chez nous, mais en fait, ils sont tout près et on ne les voit pas. Ils sont dans des centres un peu éloignés des villes où on ne sait pas vraiment où ça se situe. Il faut faire un petit peu la démarche, mais on peut se rencontrer. Donc c'est ce que raconte un petit Guy, mais donc on arrive quand même à briser cette glace-là. Et aussi faire la démarche d'aller voir sur place, à Lampedusa, par exemple, aux frontières donc de l'Europe, physiquement, qu'est-ce qui se passe vraiment là-bas, et d'aller voir de nos propres yeux sans forcément passer par des documentaires ou des récits d'autres personnes, d'aller voir nous-mêmes et de ressentir nous-mêmes. D'ailleurs, quand on est allé sur place, la plupart du temps, on croyait comprendre mieux et en fait, on faisait que comprendre encore moins bien ce qui se passait. Ça faisait que soulever de nouvelles questions sans arrêt. Je crois que c'était la même chose à Calais. On disait, ben maintenant, on est allé loin, à Lampedusa. Et maintenant, en fait, pourquoi ne pas aller très proche de chez nous? On sait qu'il se passe des choses à Calais. Et quand on est arrivé, c'était pas. Enfin, on ne savait pas qu'il y aurait eu tout ce coup de feu médiatique à ce moment-là. Et on arrivait au milieu d'un tourbillon. On ne comprenait pas grand-chose de ce qui se passait, les implications des uns des autres. Et voilà, ça chamboule en tout cas à chaque fois de venir sur place, de parler directement avec les personnes. Et c'est ça qu'on a voulu garder aussi dans le spectacle, que la rencontre, elle continue à vivre à travers un projet de théâtre, que le spectacle puisse témoigner de ça, qu'il y a les rencontres ne sont pas que éphémères, elles peuvent durer, elles peuvent vivre.
Et on a effectivement des rencontres, on a un travail de documentation et ça donne quand même un spectacle qui dure presque 2 heures, qui n'ennuie pas son public. Enfin, comment vous avez mis en forme tout ça et comment vous avez un peu agencer toutes ces expériences?
Pas facile de répondre à cette question, même pour un autre type de création de théâtre, il n'y a pas de recette en fait. Donc c'est un projet d'écriture, donc on n'est pas parti d'un texte qui existait. Et donc c'est un processus très empirique qui prend beaucoup de temps, où on collecte tout type de matériaux, de différents types, tout type de matériaux, pardon. Donc on lit beaucoup de livres, on a de la matière juridique, on a des interviews avec tous les acteurs de la migration, sauf les décideurs. Et on a toutes ces matières-là. Et plus la matière est concrète, plus elle est directe, plus on a un rapport proche avec cette matière, au plus c'est un peu plus facile d'aller au plateau avec une proposition. Et donc chacun fait des propositions dans lesquelles il s'engage soit lui individuellement, soit d'autres et lui. Et il écrit des petites scénettes et on se présente ça entre nous jusqu'à constituer un pot de propositions un peu aléatoire, mais quand même sur des objectifs précis qui étaient notamment de traiter de la xénophobie business, s'inspirer beaucoup des concepts que Claire Rodier défend dans son bouquin, de « Un monde de camp » de Michel Agier et « Des chasses à l'homme » de Grégoire Chamaillou, qui sont trois bouquins qui nous ont forgé, allez, je dirais, dans des grandes lignes dramaturgiques et essayer de comprendre et d'aller au-delà du sensationnel et de l'émotionnel qu'il y a derrière ce sujet énormément traité au théâtre. Et donc on voulait vraiment avoir ces angles-là. Et donc ayant ça en tête, on peut aller avec une proposition concrète qui est le résultat d'une enquête, d'une lecture ou d'une observation en rapport avec une théorie qu'on a lue quelque part. Et une fois qu'on a constitué cette grande panière de propositions, on commence à construire un fil conducteur. Et pour ça, on a fait quatre ateliers en partant plutôt des interviews administratives que les migrants eux-mêmes, peut-être que Tigui en parlera, que les demandeurs d'asile eux-mêmes ont vécu. Et ils ont aussi réussi grâce à ça à nous diriger dans le travail où eux jouaient leur propre rôle d'interviewés et nous, on a joué leurs intervieweurs de l'Office des étrangers en Belgique. Je crois que c'est l'OFPRA, l'équivalent en France, ou le CGRA, je ne sais pas.
OFPRA.
Et donc voilà, et donc on a découvert ça, et c'est par ce biais-là, de cette petite théâtralité des scènes à deux, des scènes d'interview, que ça a commencé à se développer, puis des scènes plus larges, puis des scènes de banquet ou des scènes de réception de grands décideurs, des scènes aussi qui sont de la traduction d'enregistrement et d'enquêtes concrètes, soit à Lampedusa, soit à Calais, mais beaucoup à Lampedusa quand même, où, je termine ce petit 18, c'est où là, quand une partie du groupe s'y est retrouvée, il y avait toute une espèce de semaine, enfin c'était pas une espèce, c'était une semaine de commémoration du naufrage du 3 octobre 2013, un an plus tard, et il y avait toutes les huiles européennes qui étaient là pour la première fois, on avait accès à eux. Et donc on a pu enregistrer des prises de parole et avoir vraiment de la matière concrète pour créer une grande scène avec des décideurs européens et des demandeurs d'asile. Voilà, j'ai répondu un peu dans tous les sens. Mais une fois qu'on a constitué donc ces grosses scènes, on a fait une étape de travail l'année dernière où on a présenté un spectacle inachevé, où on n'avait pas tout terminé, plié dans nos têtes sur ce qu'on voulait vraiment raconter de A à Z, boucler la boucle. Et un an plus tard, maintenant, on a repris les répétitions sur la base de ce qu'on avait créé l'année dernière pour finir le spectacle, terminer la dramaturgie, essayer de boucler la boucle. Voilà.
Juste par rapport à comment faire du théâtre de tout ça, c'est un exemple, comme on n'était pas tous à Lampedusa, la petite délégation qui était partie a fait à son retour un jour et demi de présentation théâtrale pour transmettre ce qu'on avait vécu. Et je crois que c'est un geste comme ça de comment le théâtre peut nous permettre de transmettre des choses qu'on a entendues, des perceptions qu'on a eues, des choses qu'on a comprises, des choses qui nous ont étonnées. Et donc on avait un jour et demi de présentation à l'autre reste du groupe. Et à partir de là, du coup, le théâtre devient le vecteur en fait de la formation. Et c'est la même chose, je crois, avec les interviews. Donc c'est des personnes qui les ont vécues et qui nous ont mis en scène pour que d'autres puissent savoir ce qui s'y passe. Et je crois qu'on s'est servi du théâtre pour ça, pour transmettre, être allé quelque part, ramener, voir, comprendre, entendre et ramener ce qu'on a pêché, quoi. Enfin, avoir comme ça une transmission de notre ressenti, de nos questions. Et voilà.
Oui, justement, il y a des professionnels du théâtre parmi vous, il y a des gens qui ont une expérience de la migration, il y a un mélange entre les deux qui s'en fait. Comment ça a fonctionné, en fait?
Ben, vu que eux, ils ont fait l'école du théâtre et tout, ils font la mise en scène, etc. Donc, ils nous ont un peu initiés à ce qu'eux, ils ont appris. Et nous aussi, on les a montré ce que nous, on vit dans leur propre pays. Donc, nous avons relaté la procédure, nous leur avons dit les papiers qu'on nous donne, ce qu'on ne nous donne pas, les péripéties par lesquelles on passe pour arriver à ça, à ça, à ça, si on est dans telle situation, ce qui peut se passer et tout. Et ils ne savaient pas ça. Et nous aussi, on n'était pas très bien dans le théâtre. Donc, il y a eu un échange, il y a eu un mélange. Et c'est le métissage de tout ça qui a donné ce que ça a donné.
Ça n'a pas été facile tout de suite, en fait. Nous, on avait des problèmes de légitimité. On se demandait, merde, mais comment on va faire du théâtre ? Avant d'aller les rencontrer, comment on va faire du théâtre ? Comment on va jouer des migrants ? Enfin, comment on va jouer des exilés ? On est absolument illégitime là-dedans. Donc ça a été le déclencheur à aller les rencontrer. Puis une fois qu'on vous a rencontrés, vous étiez beaucoup plus nombreux. Une quinzaine, 15-20 personnes. Merde, ils sont dans des dépressions, dans des moments où leur dossier n'avance pas. Enfin, ça devait être très dur. Enfin, quand je dis dépression, c'est vraiment... on sent bien qu'on entre dans un centre où tout le monde brasse son affaire. Et il y a 500 personnes, 600, vous étiez à l'époque. 750 personnes qui macèrent leur dossier. Ça donne vraiment une atmosphère. Et nous, on veut faire un spectacle sur la migration. Oh là là, comment ben, ça va pas. Et donc, on se disait, commençons peut-être déjà par faire un atelier de théâtre, des exercices, et changeons les idées des gens, et voyons si on peut s'entendre, si culturellement c'est possible. Et donc, on a avancé très, très progressivement comme ça, et avec un groupe aussi qui ne comprenait pas toujours ce que c'était faire du théâtre. Enfin, bref, les gens sont partis aussi du groupe parce que ça ne fonctionnait pas. Il y avait aussi la barrière de la langue, donc ça a été tout de suite très difficile de travailler avec les gens qui ne parlaient pas bien français. C'est malheureux. La dernière personne qui parlait une langue étrangère était pakistanaise, elle a été expulsée entre-temps. Donc ça aussi, c'est une déchirure. Aucun Syrien n'était intéressé non plus par ça. C'était difficile, on voulait rencontrer des gens qui ne parlaient pas français, mais ça ne se faisait pas facilement. Et Djedou, lui, c'est avec son tout petit français au début, il est resté, il s'est accroché. Et aujourd'hui, il parle couramment français, il est sur scène. C'est aussi des belles histoires dans ce sens-là, tu as tout à fait raison de le dire. Et donc, d'atelier en atelier, on a brisé la glace, comme dit Tigui, on a appris les uns des autres. Eux nous ont enseigné leurs procédures. Nous, on leur a un peu transmis la géopolitique européenne, et des choses comme ça, et un peu de technique de théâtre, mais ils se débrouillent très très bien. Donc ça, moi je trouve qu'on ne vous a pas spécialement enseigné, c'est avec votre naturel que ça s'est produit, quoi. Et ça c'est très enrichissant aussi pour le monde théâtreux, qui est un peu aussi un vase clos, et donc ça ouvre aussi les manières de travailler. Le côté plus brut, qu'est-ce qui est plus intéressant ? Faire un objet bien fini, ficelé, ou être dans la délivrance d'un message plus brut, peu importe si c'est pas, si c'est pas précis, etc. Donc voilà.
Moi, je trouve qu'il y a depuis 3 ans, le rapport au théâtre ensemble, il évolue. Et il est tout le temps, d'année en année, de mois en mois, la relation aussi évolue et grandit. Je crois qu'au tout début, il y avait de toute façon, de la part des demandeurs d'asile qui étaient encore en procédure à cette époque-là, quelque chose d'incontestable sur le fait d'être devant un public et de dire des choses. Il y avait une urgence, une nécessité à prendre la parole publiquement qui était on avait incontestable. Et petit à petit, leur situation elle évolue aussi, et aussi le rapport au théâtre et à raconter ensemble. Parce qu'on parle aussi dans le spectacle de l'économie, de la macroéconomie, du business de la frontière, etc. Donc tout à coup, porter ensemble ce projet, je trouve que ça, la conscience de le faire ensemble et tous ensemble, et d'avoir les tenants et les aboutissants des politiques migratoires tous en tête, avec tous l'envie de porter cette parole-là, ça grandit, et je trouve que le rapport... acteur, non-acteur, maintenant, il n'a plus trop lieu d'être. On est tous acteurs de ce projet et on porte tous une parole ensemble. Et ça, je trouve que ça a beaucoup grandi depuis 3 ans.
Et ça fonctionne comment, donc, une troupe d'acteurs avec et sans papier dans le concret ?
Je vais le dire, c'est une machine de guerre. C'est-à-dire qu'on est 13 au plateau, 13 comédiens qui jouons, et autour, on a besoin de l'aide d'autres personnes pour que ça puisse fonctionner. Pour que les demandeurs d'asile, les personnes en procédure soient soutenues dans leur démarche et que le projet ne s'arrête pas une fois qu'on a fini de jouer. Le but du jeu, c'est qu'on joue un maximum et que tout le monde puisse jouer à chaque fois. Et pour ça, il faut qu'on puisse former une armée, quoi, une organisation qui lutte et qui puisse répondre aux demandes individuelles de chacun des migrants pour les aider dans leur procédure, les aider à venir ici, les aider à être bien, leur donner de quoi manger, de quoi vivre s'il y a un problème, être dans des solidarités de... solidarité de logement, enfin bref, que tout le monde soit bien au moment où on travaille et de lutter contre l'impossibilité de donner des contrats de travail à tout le monde. Donc ça demande de l'inventivité, ça demande qu'on soit organisé et en réseau avec des gens plus spécialisés qui peuvent nous conseiller sur ce genre de choses, parce que ça a été un pacte entre nous, nous allons tous être rémunérés au même niveau. Mais certains peuvent contractualiser, d'autres ne le peuvent pas. Donc le but du jeu, c'est que tout le monde ait le même net dans sa poche. Et donc ça, c'est un pacte. Et pour que tout le monde ait le même net, il faut qu'on puisse se démerder pour que quand même on reste dans les règles. Parce que si on se fait emmerder par les pouvoirs, et bien à ce moment-là, le projet pourrait être mis en péril. Donc on doit aussi, même si on flirte, peut-être que je ne devrais pas dire tous ces machins-là, mais bon voilà, si on flirte avec une certaine légalité, on est dans la légalité pour le moment. Et donc on invente des systèmes pour qu'on reste inventif et créatif sur la question du travail et de la rémunération, pour que tout le monde soit bien. Et donc cet encadrement-là, vu qu'au moment où on crée, où on est à la fois acteur, metteur en scène, dramaturge, prend beaucoup de temps, et ben, on a besoin de personnes pour nous donner un coup de main. On a 3 assistants avec nous qui sont à plein temps au moment où on crée. Et en dehors des périodes de travail, on est toujours au téléphone, on donne des coups de main, on donne un coup de main par-ci par-là dans les procédures avec les avocats que eux connaissent ou que nous avons pu connaître. Enfin, voilà, c'est un mouvement beaucoup plus large, c'est donc un esprit de troupe qui est beaucoup plus large que le simple objectif de faire un spectacle. Et voilà, je crois que c'est ça, quand on dit machine de guerre, c'est ça.
Mais je crois qu'on est
21 personnes, c'est-à-dire qu'on est très très nombreux pour pouvoir monter un projet aujourd'hui. Donc ça fait très peur, c'est impayable aujourd'hui 21 personnes pour un projet qui dure 1h45. Donc c'est dur et en même temps c'est nécessaire. Voilà, et on y arrive quand même, alors qu'on nous disait qu'on n'y arriverait pas.
Et je crois qu'on était soucieux depuis le départ dans la rencontre de ne pas dire... on ne pouvait rien promettre en fait, c'était pas parce que tout à coup des gens faisaient du théâtre avec nous qu'ils obtiendraient des papiers, parce que ça a été un peu ça au départ aussi. Et puis nous on y croyait un petit peu, et puis on s'est vite rendu compte que c'était une illusion. Mais quand même, l'idée c'était absolument parce que même sans s'en rendre compte, on peut instrumentaliser les gens, même en ayant tout un tas de bonnes volontés. On peut instrumentaliser les gens, et je crois que depuis le départ, ça a été essayer d'être au maximum vigilant là-dessus, et surtout de quand l'atelier de théâtre se terminait, de manifester qu'on était encore là et que, ça a été rendre visite dans des centres fermés quand Tigui a été enfermé, ça a été être là quand il y a des problèmes de dossier, faire circuler des pétitions, etc. Mais tout à coup, c'était le théâtre provoquait une rencontre humaine, et la rencontre humaine devait persister, même dans les moments de creux, parce que le théâtre, c'est de la discontinuité. Donc c'était comment avoir une continuité malgré la discontinuité qui est propre à notre métier, quoi.
Oui, et le temps qu'il faut pour créer un spectacle. La première fois qu'on a eu l'idée de faire un spectacle, sans savoir ce que ce serait, c'était il y a quand même 5 ans. Et c'est il y a 3 ans qu'on rencontre les demandeurs d'asile. Tous les avocats qu'on a rencontrés nous ont dit « mais vous ne les aurez jamais ». Or, il y a 3 ans, on sentait déjà que ça allait mettre 3 ans pour arriver à une première. Et les temps de production ne sont pas du tout... sont pas adaptés aux questions de procédure, quoi. Et donc, le fait de dépasser le projet de théâtre, pour que le projet de théâtre soit possible, faisait déjà partie de la question au départ. Ce qui est finalement bien, quoi. C'est pas facile de... culturellement, et aussi nous on est habitués à ce que c'est on a les habitudes de la profession, on sait comment les choses fonctionnent, et ce n'est pas facile dans la création de transmettre aussi l'esprit de la création, dans quelle attitude on doit avoir, où on a tout d'un coup très peu de temps, on va devoir fournir énormément de travail en très peu de temps, il n'y a plus d'horaire, enfin, la passion prend tout le dessus. Et ça, ce n'est pas transmissible. Et donc, c'est difficile d'être à l'écoute des personnes qui ne sont pas spécialement aussi cinglées de théâtre que nous, quoi. Et donc ça, je trouvais que c'était un obstacle difficile. Et qu'on a quand même réussi à mettre autour de la table, et il n'y avait pas de problème. Au fur et à mesure, les gens, enfin, tout l'ensemble du groupe a été d'accord, comme tu disais, de parler ensemble de la même chose. Mais ce n'était pas acquis d'avance. Et puis aussi, prendre des décisions, on travaille en collectif, il n'y a pas un metteur en scène. Mmh. Et donc, quand il y a un metteur en scène, tout le monde se met autour de la table, et le metteur en scène prend les options, et on essaie des choses. Mmh. Même si l'acteur propose beaucoup, ensuite le metteur en scène dispose, construit son montage, et hop, on fait des tentatives, et on fonctionne par essai-erreur, mais lui a ça dans sa tête, et nous, on ne s'en préoccuperait pas. C'est faux, on est en collectif, donc la préoccupation de la structure, de la dramaturgie, de la lisibilité des scènes, de la pertinence des scènes, du côté pas chiant, de savoir comment faire rebondir, ça, c'est une préoccupation partagée. Et quand on est à 7 professionnels, 7 acteurs moins professionnels, mais qui le sont tout à fait aujourd'hui, eh ben, au début, on n'est pas très malin, on sépare un peu les discussions. Et or, le projet appartient à tout le monde, et je crois qu'on a fait des erreurs là-dessus. Et au fur et à mesure du temps, parce qu'il y a eu un frottement, il y a eu des actes, des désaccords, et c'est très bien qu'ils soient sortis, où les migrants nous ont vraiment reproché de les protéger d'une pensée, quoi. C'était quoi cette manière de dire qu'on allait les écarter de la pensée du spectacle, de la mise en scène du spectacle. Et donc, hop, réunion. Et depuis ce jour-là, c'était déjà assez tard, tous les jours, c'est une réunion collective qui décide des petits changements qu'on va apporter au spectacle par rapport à la représentation qu'on a faite la veille pour savoir comment améliorer les choses. Et ça, moi, je trouve que c'est très, très important. Ce n'est pas uniquement une instrumentalisation d'un metteur en scène ou d'un collectif d'acteurs sur un collectif de demandeurs d'asile qui joue pour un collectif d'acteurs. C'est devenu un vrai collectif d'acteurs migrants et non-migrants, enfin, citoyens et non-citoyens. Et là, moi, je trouve ça une petite réussite, parce que c'était nous-mêmes, on a reproduit des schémas dans notre micro-société de pouvoir. Et on n'est jamais à l'abri de ça. Et moi, c'est le plus gros enseignement de toute cette aventure, en fait. C'est quand on fonctionne en collectif, mais tout le monde peut très bien fonctionner en collectif, et on peut très bien faire comprendre au pouvoir public que des non-citoyens et des citoyens peuvent travailler ensemble, et que cette notion, d'ailleurs, devrait un peu disparaître. Voilà.
Et justement, votre rencontre avec ces deux points symboliques des frontières de l'Europe, Lampedusa, Calais, sachant que ce n'est pas en Belgique et qu'en fait, le fait d'être avec et sans papier a dû jouer aussi sur la possibilité de se rendre sur place.
Bah, Lampedusa, moi, j'y étais pas. Donc, tu peux plus facilement en parler. Calais, je peux en parler après un peu, parce qu'on y était ensemble.
Mais c'est vrai que là, pour le coup, on ne pouvait pas y aller à 20. Et... aussi, ça a été des expériences très différentes parce que, donc Lampedusa, on était 5, je crois. Et être en petit comité, c'était aussi différent d'à Calais, d'arriver en groupe, parce que tout à coup, on est très visible, alors qu'à Lampedusa, on se faufilait un peu. On arrivait. Le rapport n'était pas du tout le même. Et puis, c'était très étonnant parce que à Lampedusa, le constat, ça a été un peu... Donc, c'était la commémoration du naufrage du 3 octobre et il y avait à la fois cette commémoration avec les officiels, les hommes politiques italiens et européens qui se sont rendus sur place. Enfin, c'était un moment, je crois, hyper important de voir la mascarade politique là-bas. Et à la fois, il n'y avait pas du tout de... Les bateaux n'arrivaient plus à Lampedusa à ce moment-là, le centre était fermé. Donc c'était plutôt une zone militaire parce qu'on a vu les barrages, les radars, les hommes qui les hélicoptères, les hommes en uniforme qui travaillent là-bas, qui amènent leurs enfants le matin à l'école en uniforme de militaire. Et, enfin, on sent qu'il y a des jobs là-bas pour tout ce qui est du contrôle et de la surveillance. Mais il n'y avait pas les arrivées comme on voyait depuis des mois, et dont on avait vu dans les médias. Il n'y avait pas ça. Et en revanche, à Calais, là, c'était se confronter donc à ce bidonville et à la fois être arrivé en groupe. Moi, je sais que ça m'a, c'était très, je crois qu'on était mal à l'aise d'être un groupe comme ça à débarquer pour très peu de temps, en plus parce que là, pour le coup, on avait vraiment très peu de temps. Et en plus de venir après une période où il y avait eu déjà beaucoup de gens qui venaient pour filmer, pour venir comme ça à la cueillette d'informations. On avait plus besoin de discrétion. Enfin, moi, je sentais qu'on avait besoin de rencontrer les gens un peu en les laissant tranquilles aussi, mais à la fois... Enfin, c'était plus difficile de se faufiler. Et puis, moi, je crois que ce qui m'a le plus marqué à Calais, c'est que j'ai entendu cette phrase « On n'a pas le droit de discuter ici ». Et ça, je crois que ça m'a... Enfin, c'est la chose qui m'a le plus marquée. Ici, on ne parle pas. Enfin, donc, j'ai été sortie d'un lieu comme ça en me disant « On n'a pas le droit de discuter ici ». Ça, ça a été un des plus grands chocs parce que justement, moi, j'avais vécu Lampedusa où je sentais que beaucoup de personnes avaient vraiment envie de parler, avaient vraiment envie que ça se sache, ce qu'ils vivaient. Par exemple, ce médecin de Lampedusa, quand on est allé à la clinique, on s'est dit « Bon, on va attendre 5 heures dans la salle d'attente et puis il va nous parler 5 minutes ». Pas du tout. Il nous a parlé pendant 1h30 et ça se sentait qu'il avait envie que les gens soient au courant de ce qui se passait sur cette petite île. Et donc ça, c'était pour moi ce contraste-là qui a été très fort, en fait, de me dire je comprends pas comment il y a, sur les mêmes problématiques, il y a des... des réactions tellement opposées, ça a été pour moi un choc. Enfin, je parle personnellement de mon ressenti.
Oui, mais moi aussi, qu'elle a été un vrai choc. Je crois que j'ai eu 3 chocs dans toute cette affaire. Je crois que Lampedusa aurait pu en être un aussi, mais ça, comme j'ai pas pu y aller. Le premier choc, c'était passer la barrière d'un centre ouvert. Et le deuxième choc, ça a été passer le portique détecteur et d'un centre fermé, celui de Bruges, quand on était voir Tigui. Et le troisième choc, ça a été Calais. Et Calais, ça a vraiment été un gros choc. Je ne me suis jamais senti aussi mal à l'aise. Et j'ai compris. Enfin, j'ai été offusqué d'entendre que c'était un bidonville d'État. Je me dis là, ça coince quand même. Quand l'État organise un bidonville, c'est vraiment quelque chose qui dérape. Déjà, ça m'avait. D'entendre cette appellation-là, ça m'avait vraiment choqué. Et de retrouver une masse de personnes sur un territoire, c'est, comme tu dis, c'est encore plus dissuasif d'aller à la rencontre de ces gens-là. Et en lisant Agier, en ayant vécu le moment à Calais, je me suis dit, tiens, mais c'est quand même vachement bien foutu pour qu'on ne rencontre vraiment pas ces gens et qu'on n'y mette pas les pieds. Ça fait peur rien que d'y penser, quoi. Et donc voilà, ça a été quelque chose d'extrêmement révoltant. Et en même temps, en marchant dans les allées du camp, je n'arrive pas à être à l'aise, quoi. Enfin, c'est trop. Et donc la mise à l'écart, découvrir la mise à l'écart sur le continent européen, c'est quelque chose vraiment... Là maintenant, je suis très content et j'invite tout le monde à aller le vivre pour se rendre compte de ce que c'est. Et du coup, ça donne quand je compare encore le bouquin d'Agier, où on voit quand même qu'il y a énormément de camps, je ne sais plus les chiffres qu'ils citent sur la Terre. Et en tant que petit Européen, on s'offusque d'un camp qui est chez nous, mais on s'en fout complètement qu'il y en ait plein dans le monde. Enfin, dès que ça se passe chez nous, c'est offusquant, alors que... Enfin, bref, et donc là, il y a quelque chose aussi qui me dérange sur le fait que ça continue à exister, même si un jour, à mon avis, enfin, j'espère que Calais sera enfin géré, que l'accueil sera géré plutôt que la mise à l'écart, quoi. Mais ça participe aussi du choc que j'ai eu avec les autres camps, avec le centre ouvert, enfin, je dis d'autres camps, mais avec un centre ouvert et un centre fermé. Ça, c'est quelque chose contre lequel j'ai envie de lutter viscéralement, quoi. Et de montrer que par des projets de théâtre, c'est possible... de faire en sorte que les gens ne soient pas encampés, quoi. Enfin, mis à l'écart, au-delà du territoire, mais mis à l'écart dans leur statut, dans leur essence, quoi. Dans leur non-existence, juridique. Et je trouve que c'est les gens qui décident ce genre de choses sont extrêmement malins de mettre à l'écart... réellement et symboliquement des personnes pour qu'ils ne puissent jamais devenir électeurs, quoi. Enfin, c'est des non-droits, des non-existants, enfin, je ne sais pas, quoi, des sous-hommes. Enfin, moi, ça, c'est quelque chose qui me révolte intrinsèquement, je trouve. Et le fait de l'avoir vu, ça a été nécessaire pour faire tomber le franc, alors qu'on avait lu plein de trucs là-dessus, quoi. Donc il faut aller voir. Il faut se forcer à aller voir. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Je me sentais comme au zoo à Calais. C'était pas bien, c'était pas agréable. C'était vraiment pas agréable, quoi. Et j'aurais eu envie, je sais pas, de pouvoir rencontrer un peu plus petit groupe. Je n'y arrivais pas, c'était impossible, quoi.
Mais cela dit, moi, on a passé, on est, parce qu'à Calais, on est resté un peu plus longtemps, du coup, on est allé à un moins grand nombre devant l'église où il y avait encore des Syriens. Et voilà, on a discuté hyper longtemps. Enfin, je sais pas, oui, c'était...
Hyper longtemps avec ?
Avec les Syriens qui étaient devant l'église.
Ouais,
ouais. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est que ce soit au Leader Price ou dans le bidonville ou devant l'église, c'est l'hospitalité de ces personnes. Moi, ce que je trouve génial, c'est qu'on arrive... Alors, bon, on arrive, on va acheter des petites choses à grignoter pour venir pas les mains vides. Mais déjà, chacun est venu, ils ont déjà reçu des choses. Et on sent qu'ils ont un paquet de gâteaux pour 20. Et que le premier geste que ça va être, c'est de partager ce paquet de gâteaux avec les gens qui viennent leur dire bonjour. Et je me suis dit, mais vraiment, la différence qu'on a sur le rapport à l'hospitalité entre nous qui, quand on a une petite chose, on veut à tout prix la garder pour nous parce que c'est le petit peu qu'on a, la petite miette qu'on a. Tandis que là, le petit biscuit qui est là, on va le partager en autant de personnes qui sont là. Enfin, je me dis, il y a quand même, on se prend des claques hein, là-dessus. On n'a pas les mêmes priorités.
Là, donc, la forme spectacle a été présentée. Donc, salle comble au Théâtre National pendant 10 jours, 2 semaines, avec des débats autour. Et puis, d'autres dates, des projets.
Oui, un thème autour de toute la quinzaine, avec une rencontre quotidienne après chaque spectacle avec le public et un intervenant particulier autour de la problématique. Personnes que nous avons rencontrées ici et là, notamment à Calais, ou des spécialistes, des juristes, des gens d'autres associations. Un débat politique samedi dernier et une rencontre, un échange cet après-midi sur la question du que faire. Voilà, ça s'achève. Il y a une fête maintenant qu'on entend peut-être au loin. Et pour clôturer ça avec une petite représentation encore demain après-midi. Et puis on part jouer à Charleroi, où il y aura un peu moins d'événements, mais il y en aura quand même. Il y aura de toute façon une rencontre après chaque spectacle. Et il y a un débat avec des intervenants un soir de la semaine. Voilà.
Et je crois que le projet depuis le début, le théâtre sert aussi à la rencontre. Donc ce n'est pas uniquement un projet de théâtre. Et que... Aujourd'hui, on avait la chance pendant 15 jours d'être dans un lieu, une institution théâtrale reconnue et qu'on avait envie d'investir cet espace public pour que les publics puissent se rencontrer ouais. et échanger sur des questions de société. Et tout à coup, il y a des lieux qui existent, mais il faut les investir et ils peuvent devenir des lieux vraiment où la société peut se penser, s'inventer, se discuter ensemble. Donc à la fois, on a fait un travail donc avec Olivia Arquet qui fait un travail de médiation culturelle, on appelle ça comme ça, pour faire venir des publics à la fois de demandeurs d'asile, de gens qui sont dans les occupations en Belgique ou des gens qui travaillent aussi au CGRA, etc. Enfin, du coup, des parlementaires, pour que tout le monde se retrouve... au moins pendant une soirée ou pendant une après-midi, à discuter ensemble de cette question. C'est un peu ça qu'on essaie de faire au travers de toutes ces rencontres autour.
Le titre du spectacle, c'est « Ceux que j'ai rencontrés ne m'ont peut-être pas vu ». Et faisons en sorte que ceux qui se rencontrent se voient. C'est peut-être ça l'idée du spectacle. À la base, je crois que le spectateur perçoit beaucoup qu'il y a un groupe cohérent. Enfin, cohérence, pas le bon terme, mais un groupe qui coexiste sur le plateau pendant 1h40. Et avant tout, ce qu'on peut raconter, ça transpire, ça. Et voilà, que les gens se rencontrent et se parlent, c'est peut-être le point de départ. pour penser l'accueil.
Et vos projets maintenant?
On va jouer l'année prochaine, on va essayer de jouer l'année prochaine, on va essayer de tourner ce spectacle. On a une nécessité très forte à le dire et à le donner au public. Et donc voilà, on a des voies plus classiques où l'année prochaine, sans doute, on va pouvoir le rejouer à Bruxelles et ailleurs. Et des voies moins classiques où des associations nous contactent pour essayer de le jouer. Et aussi le Parlement européen, le groupe des Verts est très intéressé par la démarche et voudrait qu'on vienne jouer dans le cadre du Parlement. Et donc ça nous intéresse parce qu'à ce moment-là, on rencontrera peut-être enfin ceux qui ne pensent pas comme nous. Et que voilà, espérons qu'ils se déplacent pour venir voir le spectacle. Et voilà, il y a plein d'autres projets comme ça.
Et puis toquer à la porte des centres fermés parce que,
ah ouais.
Parce que pour l'instant, bon voilà, c'était donné pour impossible notre projet il y a 3 ans. Aujourd'hui, ouais, il est manifestement possible. Enfin voilà, on est arrivé à faire quelque chose. Du coup, c'est impossible d'aller jouer dans les centres fermés. Donc on va peut-être essayer de, en tout cas, de voir qu'est-ce que ça fait si on pose la question. Est-ce que toc toc toc, est-ce qu'on peut rentrer? Et du coup. Enfin, d'essayer d'inventer quelque chose autour de ça, quoi.
Et le but du jeu, c'est qu'on aille jouer dans les centres fermés, mais que la séance, la représentation soit publique. C'est-à-dire oui. Que c'est le lieu où on va jouer. Il y aura des gens qui ne sont pas détenus, qui viendront aux côtés des détenus assister au spectacle. Ce qui se fait dans les prisons de droit commun en France. Mais dans les centres fermés en Belgique, pour le moment, ça ne sent pas cette ouverture-là, mais ça va être le travail d'essayer de faire ça.
Et de faire venir, parce que du coup, là, on a fait une démarche pour faire venir les gens qui sont dans les centres en ce moment au théâtre. Et là, ce serait faire venir les abonnés de théâtre dans les centres. Voilà.